On continue donc cet après-midi avec une session qui s'intitule « Les enfants du paradis, espace idéologique de la radicalité punk en France ». On va juste inverser l'ordre pour faire un petit peu de surprise et ne pas suivre le programme. Christophe va parler en premier, Christophe Pécou. On a depuis ce matin entendu énormément de choses qui sont finalement... Comme François le disait, on a des fils qui se tissent et qui se rejoignent, puisque chacun dit « Ah ben ça, je vais en parler, ça, je vais en parler », chacun parlant de ce que l'autre a évoqué. Avec Christophe, on avait aussi pensé, vous savez qu'il est sorti ce livre, enfin je ne sais pas s'il est sorti ou s'il va sortir, il est sorti, le livre de Gilles Bertin qui s'appelle « 30 ans de cavale, ma vie de punk », qui là aussi est une mise en récit de son histoire. Vous avez peut-être entendu l'émission qui était sur France Culture au début du mois de janvier, qui s'appelait « Une vie en sursis », qui est un peu différente de cette 30 ans de cavale. Voilà, donc il a écrit ce livre, qui est sorti chez Robert Laffont, où il raconte donc, il fait le récit de la manière dont il s'est rendu l'année dernière, il y a 2 ans maintenant. Il a passé la frontière, il est revenu. Donc, pour vous rappeler juste les dates, parce que c'est important, comme dit François, on a... Gilles, non, il n'est pas là. Je parlais des dates. C'est en 88 que commence sa cavale à la suite du braquage de l'entrepôt de la Brinks à Toulouse, où ils ont quand même pris 15 millions de francs, qui est 3,5 millions d'euros à peu près. Et cette action, finalement, rejoint un petit peu ce qu'on disait aussi ce matin sur le fait que ça, c'est aussi un substrat ou un creuset idéologique dans le sens où, à cette époque-là, avant les braquages qu'il a commencé très tôt, comme il le dit, avant de braquer des banques, c'était des bijouteries, etc. Mais Gilles explique que déjà dans sa vie de chanteur de Caméra Silence, ils avaient, lui et ses copains, une espèce de culture d'imprégnation d'une idéologie qu'il appelait lui-même non pas une idéologie mais plutôt un état d'esprit qui avait quand même quelques références dans une idéologie qu'on peut appeler anarchiste, dans le sens où dans les premières choses qu'il a volées, ce qui est intéressant parce qu'il le raconte, lui il n'avait pas allé à l'école, en troisième il avait fait juste, il était jusqu'au collège et puis fait un petit peu de formation de mécanicien. Mais les premières choses qu'il a volées, c'était des livres, comme les livres de Guérin, comme des livres de les mémoires de Ulrike Meinhof et tout ce qui avait attrait à la bande Abadère. Et d'ailleurs, le nom même du groupe de Caméra Silence fait référence à cette méthode de torture de cellules de privation sensorielle. Donc on a quand même ce creuset qu'il a forgé et accompagné tant dans sa pratique musicale que dans sa trajectoire sociale. Donc on n'est pas dans une théorisation ou une revendication politique, mais on est quand même dans une pratique antisociale, anticapitaliste et anarchiste que l'on retrouve à travers l'ensemble des groupes que l'on évoque ici, dans une époque qui était marquée de violences politiques vécues en Europe depuis le début des années 70, comme l'a dit Pierre ce matin avec les actions italiennes ou en Allemagne avec la Rote Armee Fraktion et autres. Donc on a quand même juste envie d'évoquer cette histoire parce qu'elle est aussi importante jusque dans le groupe que va présenter Christophe, qui est Bye Bye Turbin. Tu veux enchaîner directement ? T'as pas de son ? Tu prends celui-là ?
C'est bon.
Donc voilà, c'était juste aussi pour dire que Gilles, quand il va présenter son livre mercredi à la librairie La Friche, rue Léon Frot, mercredi soir. Et ce qui est marrant, c'est que lui, il dit aussi qu'il n'y avait pas de projet politique, mais qu'il y avait un projet nihiliste. Donc c'est marrant d'entendre ça, parce que ça rejoint aussi un do-it-yourself dogmatique quand même, puisqu'il y a de toute façon un projet quand même. Il n'y a pas de science des idées qui soutient ni la musique ni l'action, mais il y a une forme d'idéologie qui lui permet quand même d'appréhender la réalité et de se l'approprier. Et le truc le plus drôle, c'est que le SRPJ de Toulouse, quand ils ont commencé à titrer à la suite du braquage, ce qu'avait retenu Gilles, c'est qu'il s'était marqué des truands de droit commun avec des méthodes de politique. Donc c'était quand même un grand hommage pour lui d'avoir réussi ce braquage qui lui a valu cette vie de 30 ans de cavale en Espagne et au Portugal. Christophe Pécou, maître de conférence à l'Université d'Arouen. comme on dit là-bas, va nous présenter son travail sur qu'il a intitulé Appropriation. Enfin, c'est le titre. Appropriation is my hobby, qui est un travail sur l'origine du militantisme chez Bye Bye Turbin. Je ne sais pas si tout le monde connaît Bye Bye Turbin, mais c'est le groupe que l'historiographe de Bye Bye Turbin va vous présenter. Okay. La dimension politique de ce groupe méconnu.
Exactement. Merci Estelle. Donc je vais vous présenter un petit peu cette histoire sur un groupe sur lequel je travaille depuis maintenant 3 ans. Donc comme disait Estelle, c'est un groupe anonyme, mais qui est un groupe pionnier, on va dire, dans le mouvement punk en Normandie, puisqu'il se crée fin 76, bien avant les Olivenstein. C'est un groupe qui a une carrière courte, 4 ans, peu prolifique, il y a 2 45 tours, quelques concerts en Normandie, 2 concerts à Paris au Gibus et au Golf Draw. Donc voilà, mais si je parle de ce groupe aujourd'hui, et dans le cas notamment dans cette journée, c'est que Bye Bye Turbin présente pour moi une spécificité dans le paysage punk français du moment, à savoir son engagement militant, qui est revendiqué autour d'un discours qui est théorisé, structuré et conscientisé. Et comme justement l'explique bien Pierre Raboud dans son article sur l'émergence du punk en France, il nous dit que les contenus des chansons des premiers groupes punk sur la critique de la société sont rares. Et ça, malgré, paradoxalement, un contexte socio-économique difficile qui génère à côté des luttes ouvrières ou des luttes étudiantes. Et donc, ma communication, moi, voilà, elle vise à démontrer que Bye Bye Turbin, c'est un de ces très rares groupes du punk français de la première génération qui s'engage dans un militantisme actif autour d'une critique radicale de la société. Et donc, leur vision de la société, leur perspective de vie, se construisent autour du discours libertaire et il s'est concrétisé par l'intermédiaire du mouvement punk. Et sur ce point, on va retrouver certains éléments qu'a présenté Philippe tout à l'heure sur la question de l'autonomie. Donc, dans un premier temps, je vais présenter le processus de construction de ce discours radical qui débute au lycée, se forge à travers des rencontres, des lectures, aussi des actions. Et dans un second temps, je vous présenterai un petit peu comment, musicalement, ce discours et ses pratiques au quotidien, voilà, comment peuvent traduire ces idées libertaires. Donc ce travail, je l'ai mené donc depuis 3 ans et j'ai refait des entretiens avec les acteurs et les musiciens de Bye Bye Turbin. Donc Alain Gallienne, Éric Gervais, Bernard Benesch et Vladimir Marcus. J'ai aussi mobilisé des archives de presse locale, mais aussi des archives privées que m'ont donné ses membres, dont certaines seront voilà, pour la première fois visionnées. Donc voilà. Donc tout débute au lycée technique La Place à Caen, où se rencontrent Alain, Bernard et Eric, ils sont en seconde. On est en 72, 73, 74. Donc le lycée La Place est un lycée technique qui prépare au métier du bâtiment, au métier de l'industrie. Donc on retrouve un petit peu aussi les similitudes avec l'article d'Hervé Zenouda qui nous dit que le punk parisien commence au lycée Charlemagne. On pourrait dire que le punk canet commence au lycée La Place. Et donc c'est durant cette scolarité qu'ils vont construire leur discours et leur vision sociale. Donc ils vont se familiariser avec notamment la contre-culture. Donc ils écoutent la Beat Generation, ils lisent les écrits de la Beat Generation, ils écoutent Dylan. Ils écoutent aussi les émissions de radio et notamment une qui les a marquées, qui est l'émission de Michel Lancelot qui passait sur Europe 1. Ils vont lire Actuel, Rock and Folk, et en même temps ils vont aussi commencer à découvrir les écrits de Debord, dont ils ne comprennent pas tout, ce qu'ils m'ont dit. Et ils vont aussi lire Daniel Guérin, qui est le théoricien du communisme libertaire. Donc c'est à travers ces rencontres entre étudiants, ils sont internes, et donc à partir de ce moment-là, leur militantisme va être mis en œuvre, notamment par toutes les luttes lycéennes et étudiantes qui agitent l'école à ce moment-là. Donc ils vont participer aux premières manifestations, et notamment contre la loi Debré de 73, qui abroge le sursis militaire. Et donc, c'est leur première action, et ils vont aussi rencontrer à ce moment-là des profs qui, comme le dit Alain, vont faire mon éducation en termes de culture de gauche, d'extrême gauche et d'ultra-gauche. Ils vont bloquer le lycée et ils vont aussi, pour la première fois, participer à un journal lycéen qui s'appelle Abrupt, qui est créé en 1974. Voilà un peu ce qu'on peut retrouver dans ce magazine. Mais surtout, ils vont créer leur propre journal lycéen qui s'appelle Énergie 312, dont voici le premier exemplaire. Et donc, c'est Alain qui est le rédacteur. Hein. Donc, on pourrait parler de fanzine ou de journal, qui est distribué clandestinement, parce qu'il n'y a pas le droit dans le lycée. Ils vont aussi être en lien avec des profs, notamment sur le côté plutôt artistique. C'est là qu'ils vont apprendre la sérigraphie. Ils vont avoir des discussions autour du pop art, sur l'art en général, etc. Donc, les profs aussi sont là aussi pour divulguer un discours. Et donc, ce premier fanzine, quel type de discours on y retrouve ? On y retrouve un discours, on va dire, de critique sur la société. On va trouver un discours antilimitariste. Tous les membres de Bye Bye Turban vont être réformés P5. Un discours anti-flic, un discours anti-patron, anti-capitaliste, mais aussi quelques écrits sur, on va dire, leur situation scolaire de l'époque. Et donc, ils vont revendiquer, notamment, alors par exemple, plus de sorties scolaires le mercredi après-midi, parce qu'ils n'ont pas le droit de sortir, ils sont internes, pour la liberté d'expression dans le lycée qui est muselée. Ils vont se dresser aussi contre le proviseur et contre les différents profs réactionnaires. Et notamment, ça va se passer avec des caricatures. Ils vont lutter contre le règlement intérieur et dans ce qu'ils appellent le lycée caserne ou le lycée usine. Voilà, par exemple, un dessin de Bernard Benech représentant un petit peu cette condition scolaire de l'époque. Donc, il y a Alain qui écrit les textes et Eric et Bernard, qui étaient le bassiste et le guitariste, qui, eux, vont plutôt dessiner. Donc, ce militantisme lycéen, il va les amener vers des sensibilités idéologiques plus affirmées, comme le communisme libertaire au sein de l'OCL, l'organisation communiste libertaire qui se forme en 76 avec la scission avec les organisations anarchistes. Donc, l'OCL, c'est un mouvement autonome, anti-hiérarchique, anti-militariste, qui lutte pour l'émancipation des travailleurs. Et donc, ils deviennent la cellule lycéenne de l'OCL. Et donc, à ce titre, ils vont participer aux manifestations, aux assemblées générales. Et comme le dit Alain, je cite, ce qui nous intéressait, c'était l'agitation, les manifs, le fait que ça chie. Il y avait un air de fête. Donc, et il parle d'agir radical. Donc, ils militent au sein de cet OCL, mais aussi ils vont militer avec un autre groupuscule qui s'appelle le PMRT, qui est pour un mouvement révolutionnaire des travailleurs, qui est une micro-organisation révolutionnaire, dont l'objectif est la prise du pouvoir par les travailleurs. Et donc, dans ce mouvement-là, fait partie le premier bassiste de Bye Bye Turban, qui s'appelle Pierre Jugy, qui jouera quelques mois. Donc, au sein du PMRT, ils font de l'agite politique, ils vont dans les cafés ouvriers, ils vont à la sortie des usines pour distribuer des tracts, pour inciter les ouvriers à adhérer au PMRT, mais comme disait Vladimir, la plupart du temps, ils se font jeter par les ouvriers qu'on n'a rien à foutre, des petits jeunes qui donnent des tracts. Et donc, ce premier pas dans le militantisme, eh bien, c'est ça qui va les amener à rencontrer Vladimir Marcus, donc qui est le futur chanteur de Bye Bye Turban, qui est plus âgé de 5 ans, et lui, il travaille au Tripostal. Et il se présente d'abord comme un agitateur. Donc Vladimir, c'est un marxiste convaincu qui est proche de ce qui se passe en Italie sur les mouvements ouvriers. Il est au courant de tout ça. Mais surtout, ce qui va au-delà du discours politique et idéologique, il va aussi leur faire rencontrer sa culture du rock anglo-saxon, puisque lui, il a une grand-mère qui habite à Londres et il se rend tous les mois, enfin au moins une fois par mois, à Londres. Et donc, il s'y rend depuis 74-75. Donc, il va leur parler du pop rock et surtout il va lui parler du punk qui arrive. Il ramène les premiers 45 tours, il leur fait écouter et un peu c'est la révélation pour tous les autres membres du groupe qui écoutaient plutôt les Stones ou les Beatles ou d'autres groupes. Et donc étant sur la même longueur d'onde idéologique et ensuite musicalement, eh bien, il décide de monter le groupe fin 76 pour exprimer un petit peu ce qu'il ressent. Et d'ailleurs, l'objectif de Vladimir, c'est de devenir un chanteur dans un groupe de rock pour quitter son travail. Et dans cet engagement et le discours qu'ils vont défendre, c'est la critique du travail, la critique du salariat. D'où le choix du nom Bye Bye Turbin, qui est issu de l'ouvrage de Le Manac, qui est un écrivain plutôt tendance situationniste. Et donc, à travers le groupe, ils vont essayer d'exprimer leur discours par des pratiques aussi DIY, témoignant de leur volonté de donner du sens au discours. Et musicalement, on va voir, je vous ferai écouter un petit peu de titres. Eh bien, ce discours critique, il va aussi passer par un son puissant, par des morceaux très courts et des paroles percutantes qui relatent souvent des thèmes sociaux ou des thèmes d'actualité. Il y a aussi un passage par le détournement d'affiches, un détournement d'affiches de 1976. Vive la paresse, le travail est dépassé. Donc ça va être leur slogan récurrent, ne travaille plus, ne travaille pas, écoute Bye Bye Turbin, etc. Donc le groupe, comme me dit Vlad, le groupe représente leur propre organisation politique. Que disent les paroles? Donc je vous donnais quelques titres. Dying for Life, c'est la question justement de la critique du travail. Alors je vous ai traduit les paroles parce que Vladimir chante en anglais. Et donc, ça j'en parlais tout à l'heure, mais il traduit ses textes au public. Donc Dying for Life, c'est sur la question du travail, l'aliénation à la machine. Il va y avoir tout un tas de titres autour d'une critique sociale, notamment sur les conditions des élèves, avec le titre CES Payron, qui parle de l'incendie du lycée, qui a fait 20 morts, je ne sais plus, 77 ou 76, et donc il met en avant le fait que, on fabrique des lycées qui sont capables de brûler et faire autant de morts, donc voilà. Donc il y a une dénonciation un peu des conditions scolaires. Pretty Faces, c'est un peu sur justement la récupération du punk par ce qu'il appelle les petits frimeurs, etc. Donc le manque d'authenticité, on va dire. Autre point dénoncé, c'est le service d'ordre KCP. Il écrit ce morceau-là, KCP, juste après la mort d'un jeune antillais à un concert par le service d'ordre. Donc voilà, on parle de camps de concentration musicaux. Donc vous voyez que les termes ont un sens ici. Germain Tritt, je vous ferai écouter, ça renvoie à notamment tout ce qui se passe en Allemagne sur la bande à Bader, comment la violence peut être légitimée à un moment donné face à une société violente, etc. Vous avez aussi certains morceaux, et là qu'on retrouvera en termes de continuité, sur la question de l'hospitalisation psychiatrique, dans deux morceaux qui s'appellent Lobotomia et Olivenstein, et ce sont des thèmes que l'on retrouvera par exemple avec les BRU Pavillon 36, par exemple. Donc, ce questionnement sur l'hospitalisation psychiatrique, sur les soins, etc. Donc, je vais vous faire écouter. Alors, voilà le texte du morceau Liebenstein, qui parle justement de. Voilà, ils étaient deux ou trois, je les vois encore rentrer chez moi. Ils m'ont dit maintenant, c'est fini, on va te faire la lobotomie. Vous voyez, donc, ces questionnements psychiatriques. Donc, quelques morceaux pour. Donc j'envoie, si tu peux gérer le son. Donc là, c'est Number Six. Alors Number Six, c'est en référence à la série Le Prisonnier. Vous écouterez, vous taperez Bye Bye Turbin sur Google et vous aurez quelques titres. Bon, c'est pas grave. Donc ce militantisme se traduit aussi par ce son, par ces paroles qui ont un sens. Même si elles sont chantées en anglais, elles sont quand même traduites auprès du public pour savoir de quoi on parle. Et donc, ce militantisme, il va aussi se traduire par des actions, et notamment par la pratique du DIY. Ça va être, par exemple, des concerts de soutien aux manifs lycéennes, comme celle-ci, sur le lycée Malherbe. Ça va être aussi des tentatives, parce que bien évidemment, il y a aussi des échecs, des tentatives d'être en phase avec la réalité économique et sociale de la région cannaise en 76, 77, 78, qui se traduit comment? C'est la désindustrialisation, c'est le licenciement, par exemple, dans la SMN, la société métallurgique normande, c'est le licenciement chez Moulinex, c'est voilà la montée du chômage, et donc ils vont essayer voilà de dénoncer un petit peu ces conditions. Et Vlad me dit à un moment donné sur Moulinex, voilà, avec Bye Bye Turbin, lorsque les ouvrières de Moulinex étaient en grève, on a voulu établir un pont et organiser éventuellement un concert de soutien, mais vu le barrage des syndicats, ça n'a pas été possible. Donc, vous voyez, il y a aussi ces tentatives qui échouent par le poids aussi des syndicats dans ces grandes entreprises, pour un petit groupe provincial. Hein. Ils vont jouer aussi à la fête des Coteaux, qui est la fête du Parti communiste local, et ils se font une joie de foutre le bordel pendant cette fête. Ils montent sur scène et écrivent « Abba Moscou, Abba Marché, Abba l'URSS ». Donc forcément, ils sont dégagés minimalitari de la scène. Ils jouent pour l'OCL. Ils essaient de trouver toutes les possibilités pour exprimer leur discours, puisque il est difficile en 77, 78, 79 de trouver des lieux pour jouer de la musique, alors à part les MJC. Voilà, donc ils vont jouer dans des CAT, ils vont jouer à l'ILUT, à l'université. Donc ils jouent un petit peu où ils peuvent. Et donc ce discours libertaire, voilà, s'exprime aussi dans la pratique d'un DIY qu'on pourrait appeler subi, parce qu'il n'y a rien d'autre, mais aussi choisi, dans le fait de rejet de la culture dominante, l'autogestion, etc. Et donc ils vont créer une association. Alors, ils vont créer d'abord une association qui s'appelle Viva Rock'n'Roll, qui paraît même dans Best en août 77. Et donc l'association, elle est là pour faciliter l'organisation de concerts, même si c'est très difficile d'organiser des concerts punk à Caen à ce moment-là. Va y avoir un fameux... Donc il y aura aussi des fanzines, hein, j'y reviendrai. Il y a aussi un fameux concert qu'ils organisent qui s'appelle Rock différent dans une ville indifférente, en mai 78, où l'objectif, c'est de contester un petit peu la politique culturelle de la ville de Caen. Et donc, c'est un concert gratuit qui, malheureusement, va se finir en bagarre générale. Donc, fin des concerts. Donc, ils feront encore deux concerts et terminé. Et donc, dans ces concerts-là, Vlad, le chanteur, qui chante en anglais, hein, aujourd'hui, va expliquer un petit peu ses textes au public pour les inciter à réfléchir, voire à passer à l'action. Et donc ça crée aussi à un moment une ambiance un peu survoltée dans les concerts, ce qui fera que, bien évidemment, les concerts seront un petit peu surveillés par les renseignements généraux, etc. Donc il y a la création aussi, alors je monte ici, d'un fanzine qui s'appelle Crise, donc qui va présenter un petit peu aussi les groupes canés qui sont autour de Bye Bye Turbin. Bernard, le bassiste qui suit ses études à Paris, va vivre dans un squat à Paris dans le 15e et y organiser aussi des concerts. Donc, vous voyez, il va aussi ramener à Caen cette culture du squat qui n'existe pas à Caen à ce moment-là. Et va y avoir aussi la mise en avant aussi d'une imagerie un petit peu provocatrice, hein, liée au punk. Là, voilà, je vous montre des images où, eh bien, on va confectionner un petit peu ces uniformes. C'est ce que Philippe Lyotard appellerait le fuck you style. Hein. Donc, on va confectionner des vêtements avec des slogans. Vous voyez, sur la chemise jaune, c'est « Je suis pas une bavure », P38, « Ne travaille plus », il y a des slogans, etc. Et le but, vraiment, est de renvoyer voilà une violence visuelle. Ils vont aussi autoproduire leur premier 45 tours. Il y a aussi des paradoxes, rapidement, que je soulève, c'est que, autant ils sont sur l'autogestion, sur l'autonomie, mais ils vont quand même démarcher à un moment donné chez Barclay. Vous voyez, quand ils font le golf draw. Donc, vous voyez, ils sont un petit peu aussi ambigus dans leurs actions. Donc, seulement, ce discours et cette attitude radicale renvoient une image un peu sulfureuse du groupe, sur Caen, hein, qui est une petite ville. Et donc, cette image sulfureuse va attirer aussi dans le public des éléments d'extrême droite qui vont s'infiltrer un petit peu, notamment des rockabilly, et qui vont venir foutre le bordel à chaque concert. Et donc ça, cette ambiance-là, ça va beaucoup peser. Bernard me l'a dit, voilà, il en avait marre à la fin de faire des concerts et que ça se termine toujours en baston, qu'il y ait toujours des fachos devant lui. En plus, il y a des tensions entre les membres, notamment sur les orientations musicales, puisque pour eux, le punk est mort en 79. Donc il faut passer à autre chose. Donc ils passeront un petit peu sur le reggae. Et ils voient aussi les limites de leur discours, donc dans la réalité. Et si bien que le groupe, à l'été 80, il va exploser. Il explose comment ? Qu'une bagarre entre les membres à coups de couteau. Donc voilà. Vladimir, le chanteur, lui, il quitte le groupe en 1979. Et Vladimir, on va le retrouver où ? On va le retrouver dans un groupe éphémère à Caen qui s'appelle Checkmate. Et surtout, on va le retrouver dans les Brigades à Paris. Et il va continuer, lui aussi, à travers les Brigades, et aller plus loin encore que Bye Bye Turban, puisque les Brigades vont jouer en Pologne, en Allemagne de l'Est, en Italie, pour soutenir des luttes ouvrières. Donc là, il touche du doigt ce qu'il voulait faire avec Bye Bye Turban, ce qu'il n'a pas pu faire, parce que Caen, il s'est éloigné. Donc en tous les cas, ce qu'il faut retenir, hein, c'est que Bye Bye Turban, groupe complètement méconnu en France, a surtout marqué la scène cannaise par leur musique, par leur discours, leur engagement politique, et de nombreux groupes sont issus du public de Bye Bye Turban. Par la suite, dans les années 79, 80, etc. Et donc, il y a une scène musicale, alors peut-être moins punk, mais qui vient du public de Bye Bye Turban. Et donc là, l'image que je vous ai mise sur la fin, c'est pour vous montrer que cette question, ça c'est le verso du vinyle qui est sorti en 2013, qui reprend tous les titres de Bye Bye Turban par Mémoire Neuve. Et le It's Not Only Rock'n'Roll, on le retrouve dans un des fanzines que m'a prêté Alain, qui s'appelait Nous Voulons Tout, qui est un journal, on va dire, militant, révolutionnaire. Et donc, dans ce journal, il y a une chronique sur, notamment, le premier concert de Dr. Feelgood. Et ils ont repris le titre de 76 pour l'intituler sur le recto du vinyle sorti en 2013. Voilà. Merci.
Merci, Christophe. Merci, ça fait vraiment le lien. On voit bien là aussi, donc pour Bye Bye Turban, un engagement réel et revendiqué, autant que ça ne l'était pas dans le travail de Gilles, qui néanmoins disait, de Caméra Silence pour le coup, on sent cette notion de conscience de classe aussi qui anime de toute façon le projet. Il le disait lui-même, on avait une conscience de classe sans le... Même si il se sentait pas dans Caméra Silence, il n'y a pas de militantisme comme il y en a chez Bye Bye Turban. Néanmoins, l'expression par la musique reste, et par la scène, et par ces bastons en fin de concert qu'on retrouve de tous les récits exactement, une forme aussi d'action sociale anti-norme, avec tout ce que Pierre a pu évoquer tout à l'heure.